en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le 21 novembre 2008, l'Académie des sciences d'outre-mer a organisé une journée en hommage à Pierre Messmer, décédé en août 2007. Pierre Messmer, qui fut chancelier de l'Institut de France, membre de l'Académie française et de l'Académie des sciences morales et politiques, était également membre de cette Académie des sciences d'outre-mer où il avait été élu en juin 1976. Après l'accueil prononcé par Edmond Jouve et l'introduction du secrétaire perpétuel Gilbert Mangin, plusieurs intervenants ont pris la parole pour dresser un portrait complet de Pierre Messmer qui fut tout à la fois soldat, homme politique, académicien. Canal Academy vous propose d'écouter dans cette émission deux interventions. La première, celle d'Arnaud Dautrive, secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, qui évoque Pierre Messmer, l'académicien. Et ensuite, Jacques Barat, diplomate et professeur des universités, qui s'attache à souligner les qualités d'écrivain de Pierre Messmer en exposant les ouvrages qu'il a rédigés.
Mesdames, messieurs, je vous prie d'excuser, je serai assez bref dans mon exposé, car j'ai connu effectivement Pierre Messmer dans le cadre de l'Institut de France pendant un certain nombre d'années. J'ai eu l'honneur et le privilège de connaître Pierre Messmer de 1988 à 2007. Après tout ce qui a été dit, naturellement, certains de nos amis le connaissaient mieux que je ne le connaissais. Élu à l'Académie des sciences morales et politiques en 1988, il en deviendra le secrétaire perpétuel de 1995 à 1998. Par la suite, il sera le 25 mars 1999 élu à l'Académie française au 13e fauteuil où il succédera à Maurice Schumann. Il sera reçu sous la coupole par le professeur François Jacob. La charge de chancelier de l'Institut de France lui incombe le 1er janvier 1999, charge qu'il assumera jusqu'au 1er janvier 2006, date à laquelle il quittera cette haute fonction. C'est lors de la séance du 19 février 1999 que j'aurai l'honneur d'être installé par lui à l'Académie des sciences d'outre-mer. Sur proposition de M. Gabriel De Broglie, chancelier de l'Institut, il sera nommé par la Commission administrative centrale chancelier honoraire de l'Institut de France. Notre confrère Maurice Druon, de l'Académie française, nous sera avec l'humour que nous lui connaissons un résumé du personnage. Messmer était d'une beauté romaine que le temps n'avait pas atteint, mais plutôt impérialisée. Cette stature impériale, nous l'admirions chez Pierre Messmer. Alors qu'il officiait, il avait donc cette prestance, cette rigueur, cette attention si particulière. Je garde en mémoire les entretiens privilégiés où, en tête à tête, nous évoquions les affaires touchant notre académie. Je découvris alors sa personnalité attachante, sensible, disponible. Dautrive, me disait-il, vous avez l'académie la plus difficile, compte tenu de ses membres aux personnalités complexes, souvent opposés. Il parlait des artistes. Et alors il y a cette autre phrase, « Sachez que je suis un vieux crocodile et je revois son œil gris plein de malice qui me toisait. » Sa seule ambition était de servir, comme le souligne notre chancelier. Le personnage autoritaire, que tout plaçait au premier rang, était aussi un homme discret, secret même, qui ne m'ait pas parlé de lui. Au long de son mandat de chancelier, il développa les fondations, les dotant financièrement, au point que certains prix s'avèrent aujourd'hui comparables en montant au prestigieux prix Nobel. Selon le vœu de Pierre Messmer, devait se tenir à l'honneur des mécènes la première séance solennelle de remise des prix de l'Institut de France. Les qualités de cœur de notre chancelier se trouvent parfaitement exprimées dans ce passage d'introduction. Je cite Pierre Messmer. « Beaucoup de ces nouveaux fondateurs sont ici aujourd'hui. Je garderai dans mon cœur le nom et le visage de chacun d'eux par respect pour la discrétion dont ils font preuve dans leur générosité et pour ne pas avoir à dire en public l'amitié personnelle qui s'est créée entre eux et moi depuis que nous nous connaissons. Je les salue d'autant plus respectueusement et affectueusement que sans eux, cette séance solennelle n'aurait simplement pas eu lieu. Ces généreux donateurs avaient pour nom Christophe et Rodolphe Mérieux, Foulon de Lalande, Louis D, Yves Cotterel, la Fondation pour la sauvegarde du développement du domaine de Chantilly, fondation créée avec le soutien de Son Altesse l'Agacan. Les 5 académies constituant l'Institut de France bénéficient toutes de leur largesse. L'Académie des sciences est la plus favorisée, compte tenu de ses disciplines axées sur la recherche, et plus particulièrement la recherche médicale. Je terminais ce bref exposé en me référant à son ami Maurice Druon. La France peut regarder en lui l'un des plus nobles de ses fils. Et de conclure, Maurice Druon cite « Pour moi, la mort n'avait pas à me réserver de plus grands chagrins d'amitié. » Merci.
Bien, mon cher confrère, merci. Et merci également d'avoir synthétisé aussi rapidement le difficile exposé du rôle de Pierre Messmer dans les diverses académies. Bien, nous allons demander maintenant à M. Barra, professeur des universités, de nous parler de l'écrivain.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers confrères, à en croire Pierre Messmer lui-même, rien ne le prédisposait vraiment à devenir écrivain. On connaît d'ailleurs son inclination naturelle pour les activités de terrain, son amour des grands espaces, la mer, le désert, son penchant pour les actes de courage et, faut-il oser aussi le dire, une certaine condescendance pour ceux qui préfèrent le verbe à l'action. Pourtant, Pierre Messmer a beaucoup écrit tout au long de sa vie et en premier lieu parce que les nécessités de la carrière administrative l'y obligeaient. C'est le cas d'abord comme jeune directeur de cabinet du haut-commissaire Bollaert en Indochine, puis dans les postes de responsabilité de l'administration coloniale, ensuite comme concepteur de la loi cadre de fer. Il continua dans la même voie, comme ministre des armées du général, puis premier ministre de Georges Pompidou. En effet, comme il le dit dans ses mémoires et comme il nous l'a très souvent répété, il a toujours tenu à assumer personnellement l'essentiel de la tâche de rédaction de ses rapports et de ses discours les plus importants. Et, madame, à ce niveau, il me disait toujours, « Vous savez, monsieur le professeur, De Gaulle faisait faire ses discours, il ne tenait aucun compte de ce qu'on lui donnait, moi j'ai toujours tenu à les faire moi-même. » C'est bien plus tard, en 1986, et 2 ans avant qu'il ne mette terme à sa carrière politique, car il a démissionné en 88 de tous ses mandats, vous le savez, alors qu'il était président du groupe gaulliste à l'Assemblée nationale et qu'il faisait, je cite, « le métier de chien de berger », qu'il décida d'engager une plume à son service. Et cela, de sorte de pouvoir se décharger de ses travaux d'écriture ordinaire, afin de mieux se consacrer à la conception et à la réalisation des ouvrages qu'il avait, à partir de cette date, eu envie de publier. En réalité, c'est en 1985 exactement qu'il commença d'être écrivain avec la parution d'un ouvrage écrit en collaboration avec un de ses amis, le professeur Alain Larcan, et qui avait trait aux écrits militaires du général de Gaulle. C'est là qu'il allait commencer sa carrière d'écrivain. De fait, Pierre Messmer a toujours aimé écrire. Il est vrai qu'il y avait été parfaitement préparé des études secondaires brillantes dans des établissements d'élite. Le fait d'habiter boulevard Saint-Michel n'était pas tout à fait neutre. Des humanités de bon élève, un doctorat en droit bien rédigé, toutes choses auxquelles le passage par les langues eaux avait ajouté beaucoup de souplesse intellectuelle et un grand pragmatisme. À l'École nationale de la France d'Outre-mer, et il m'en avait souvent parlé, des séminaires de méthodologie et de rédaction de documents administratifs l'avaient aidé à parfaire son aisance naturelle dans la narration, tout en lui donnant le goût de la précision et de la concision. Il faut dire que le style de Pierre Messmer est celui d'un militaire, celui d'un haut fonctionnaire, adepte de Stendhal, qui apprécie, comme lui, je cite, en matière d'écriture, la sécheresse du code civil. Tout au long de sa carrière, il ne cessa de répéter à ses collaborateurs, je cite, qu'il n'aimait pas la sauce et qu'il appréciait qu'on en vienne immédiatement à l'essentiel. Devait donc, dans ce qu'on lui préparait, être absolument exclu dans tous les rapports, les adjectifs et les adverbes qui étaient pour lui peu utiles, sinon inutiles. La rigueur et la sobriété dans l'écrit, comme dans les discours, sont celles de l'officier de la Légion étrangère dans le commandement. L'écriture est aiguë, aiguisée, pointue, claire, précise. Elle a pour ambition de faire mouche. Les phrases sont courtes, ramassées, simples, ce qui porte parfois à des jugements synthétiques que d'aucuns ont parfois estimé devoir qualifier de jugements à l'emporte-pièce. Ces prises de position avaient néanmoins le mérite d'être claires. D'ailleurs, leur auteur les assuma toujours totalement, peu préoccupé qu'il était de plaire. Il ne cachait pas non plus sa détestation pour la mode actuelle du politiquement correct et du prêt-à-penser intellectuel. Et en privé, je me rappelle qu'il n'hésitait pas à traiter de danseuses ou de grandes coquettes ceux qui les pratiquaient et en abusaient, les hommes politiques en premier. Pierre Messmer avait accepté de rédiger de multiples préfaces, en particulier à la fin de sa vie, lorsque, n'étant plus chancelier de l'Institut, il avait toutefois eu à cœur de conserver la présidence de la Fondation Simone et Cino del Duca. Et en dehors de ses préfaces, qui sont nombreuses et qui s'adressent toujours à des soldats ou à des femmes qui ont eu des comportements de soldats, eh bien, il a écrit pour l'essentiel sept ouvrages qui sont à la fois très différents et très comparables. Alors, je ne vais pas vous les reciter, puisque je vais les reprendre un par un, mais je vais tenir mon temps. Ces ouvrages sont très différents dans la mesure où certains sont peu littéraires et très spécialisés. Et c'est le cas, par exemple, des deux premiers. Le régime administratif des emprunts coloniaux n'a rien de poétique. Le service militaire non plus. D'autres, comme les écrits militaires du général de Gaulle, sont conçus sur une trame de recherche universitaire, tout à la fois savante, pointue, généraliste, mais que nous devons à notre ami Larcan. La patrouille perdue, à l'inverse, est très à part, et je dirais que c'est son œuvre la plus romantique, la plus drôle, la plus amusante. C'est aussi la plus déconcertante. Quant à ses mémoires, ses récits de décolonisation, ses entretiens avec Philippe de Saint-Robert, il relève de réflexions du militaire, de l'administrateur, de l'homme public, du ministre des armées du général de Gaulle, du premier ministre. Et là, Pierre Messmer désire à la fois faire connaître les opinions de sa vie à un public le plus large possible, et lui fournir les éléments susceptibles, capables d'aider à mieux appréhender ses approches politiques, celles qui ont été siennes et d'une extraordinaire rigueur tout au long de ce XXe siècle. Il a également voulu expliquer à ses lecteurs les raisons profondes de son attachement à la personne du général de Gaulle et son goût pour les approches pragmatiques de la démarche gaulliste. Ses œuvres sont également très comparables parce qu'elles sont porteuses du même esprit d'analyse, du même pragmatisme de la pensée, comme du même courage et de la même modestie dans la rédaction. Comment ne pas admirer le soldat qui osait avouer qu'il aimait la bombe atomique, sans doute parce qu'elle lui avait sauvé la vie en Asie en 1945. Comment ne pas apprécier la franchise et l'humilité de l'homme politique qui osait déclarer à un journaliste, écrivain lui-même, Frédéric Mitterrand, pour ne pas le citer, qu'il n'avait pas été heureux comme Premier ministre parce qu'il avait été conscient, pendant qu'il occupait cette fonction, que certains dossiers lui avaient échappé ou qu'il n'avait pas été capable de les maîtriser. L'ouvrage concernant les écrits militaires du général de Gaulle, écrit en collaboration avec Alain Larcan, qui est professeur de médecine à Nancy, est avant tout une œuvre universitaire où le chercheur qu'est Larcan a fourni à l'ancien Premier ministre et à l'ancien ministre des armées du général de Gaulle les éléments concrets, les éléments d'analyse, les éléments de recherche et de bibliographie qui permettent d'analyser la personne et l'œuvre du général au travers de ses écrits militaires. Pierre Messmer avait un amour extraordinaire du général de Gaulle et avait voulu comprendre comment s'était façonné l'homme du 18 juin, le rebelle. Et dans cet ouvrage, on trouve une complémentarité très bonne entre la pensée et l'action du général de Gaulle, un de Gaulle historien, un de Gaulle technicien en matière d'armement, un de Gaulle sociologue et moraliste, avant que ses écrits militaires ne soient passés au crible par Pierre Messmer et par Larcan. Ils y ont systématiquement, et cela est passionnant, recherché les informations et surtout les emprunts qu'avait fait le général de Gaulle au récit de l'Antiquité, à ce qu'il en était la littérature militaire du Premier Empire et celle aussi des cercles militaires du début de la Troisième République. Dans « Après tant de batailles », Pierre Messmer nous livre ses mémoires. Ce sont celles du jeune soldat qui refuse l'armistice, se bat vaillamment dans les forces françaises libres, et c'est aussi l'histoire du colonial qui assiste au naufrage, comme il disait, de l'Indochine et qui décide lucidement de mettre en œuvre la décolonisation en Afrique noire parce qu'il dit justement « J'aimais l'Afrique, alors il fallait que nous l'étions ». C'est le ministre des Armées du général de Gaulle qui est confronté à un putsch de généraux en Algérie, cela a été rappelé, et qui donne sa démission au général de Gaulle. C'est celui qui assiste à la montée en puissance de l'OAS, mais qui a reçu pour mission de réorganiser l'armée française, de la moderniser. C'est lui qui dit il y a les soldats de mêlée, et puis il y a ceux qui maintenant seront d'autres types de militaires avec la bombe atomique. C'est lui qui décide de doter la France du nucléaire, tant militaire que civil, et qui était très fier de nous dire, de nous répéter que le plan nucléaire français portait son nom. Il est d'ailleurs toujours en vigueur aujourd'hui et personne n'a osé véritablement y toucher en dépit de quelques effets d'annonce au début des années 80. Ce sont celles enfin du Premier ministre qui avait souvent la dent dure en privé et lorsqu'il écrit et qui dit par exemple de Valéry Giscard d'Estaing, je cite, « Chez lui, tout est calcul. S'il prend le métro, c'est pour s'y faire photographier. S'il joue de l'accordéon, c'est pour charmer ses électeurs. » Tout comme pour Jacques Chaban-Delmas. Madame Garot est partie, mais c'est un homme jeune, premier en esprit, et en capacité, et dont les ambitions dominent les convictions. Je crois que c'est suffisant. C'est ce même Premier ministre qui répond par la négative à ceux qui le pressent de se présenter aux élections présidentielles en 1974. Et c'est vrai que, et ça il me l'a répété je ne sais combien de fois, les deux anciens premiers ministres de Pompidou concurrents, c'était, je cite, mais il l'a dit d'ailleurs à Frédéric Mitterrand, c'était offrir à François Mitterrand sur un plateau son septennat, virgule, ce fut Giscard d'Estaing qui fut élu. En réalité, c'était un homme qui appréciait peu les honneurs, les mondanités et les ors de la République. Je le cite toujours. À Matignon, j'étais entièrement immergé dans ce milieu où je n'étais jamais à l'aise, ni intellectuellement, ni moralement. C'est lui encore qui, avant de conclure ses mémoires, décrit ainsi son départ de la rue de Varennes, quand il dut transmettre tout à fait officiellement ses pouvoirs à Jacques Chirac, ce fameux 27 mai 1974. Je le cite, « Je soupire avec tristesse, mais aussitôt je respire un grand coup, je me sens libre. » Les Blancs s'en vont est un ouvrage passionnant parce qu'il est une chronique complète de la décolonisation et le témoignage de Pierre Messmer est d'autant plus capital qu'il peut l'étayer sur une documentation de première main, bien sûr, de souvenirs personnels, et dont certains décrivent des situations tantôt graves, tantôt rocambolesques, comme par exemple le retrait des avoirs français de Guinée, où il a fait, il le disait, j'ai fait un casse. Il ne l'a pas écrit, mais il me l'avait dit plusieurs fois. Tout ça pour empêcher ses coups tourés, mais enfin, je n'ai pas le temps, je dois rester dans mes 15 minutes. Mais Pierre Messmer n'arrête pas son récit au début des années 60. Il décrit l'Afrique des années Mitterrand et ne cache pas qu'il considère ce dernier comme, je cite, « un maniaque de gesticulation militaire ». Il fustige également les dérives d'un bon nombre d'actions humanitaires. La recolonisation des États africains par le Fonds monétaire international. Et après avoir expliqué pourquoi il avait défendu la dévaluation du franc CFA, je me rappelle, nous avions fait en 87, à l'inverse, un déplacement dans tous les pays de l'UMOA pour voir tous les présidents, pour empêcher à l'époque la dévaluation du franc CFA. La parole de Pierre Messmer à Oufouette, d'Oufouette jusqu'au dernier de la liste, Sankara, permettant le retour des francs CFA que les Mourides et les Marabouts avaient envoyés en Suisse. Son analyse est toujours réaliste lorsque elle s'impose d'elle-même. Je cite, « Pour la France, le problème est d'abord de savoir ce qu'elle veut et ce qu'elle peut faire pour l'Afrique. Aidons à consolider, moderniser, humaniser les États africains, car nous ne réussirons rien sans eux ou contre eux. Les dieux de l'Afrique ne sont pas morts pour survivre. » Il se cache sous d'étranges déguisements. La patrouille perdue contraste considérablement avec les autres œuvres de Pierre Messmer, parce que c'est un recueil de nouvelles, courtes, enlevées, inattendues, souvent cocasses, mais toujours bouleversantes, et en tout cas tragiques. Comme il aimait à le dire, Pierre Messmer s'est beaucoup amusé à écrire ses récits extraordinaires, tiré de faits et de situations véridiques qu'il avait eu à connaître. Simplement, pour des raisons faciles à comprendre et pour brouiller les pistes, il a changé ou échangé ici et là les noms, les personnages, voire même les pays. Ma part de France est peut-être l'œuvre de Pierre Messmer la plus vaste, la plus profonde, la plus personnelle aussi. Elle consiste en l'entretien avec Philippe de Saint-Robert, qui était là tout à l'heure, sur des questions ayant trait à des situations que l'ancien légionnaire avait eu à affronter dans sa carrière ou à des problèmes et interrogations d'ordre plus général. Ce sont ceux du monde d'aujourd'hui. Dans cet ouvrage, Pierre Messmer, avec le recul des années, livre avec la franchise qu'on lui connaît ce qu'il pense de ses analyses sur des sujets aussi variés que la Ve République, l'euro, la construction européenne, la défense, la mondialisation, après avoir conclu sur des questions plus anciennes comme la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, sans oublier l'épineux problème des harkis. Et à ce niveau, je voudrais dire que cette question l'avait profondément marqué et il avait été extrêmement peiné de certaines critiques et même attaques injustifiées, dont certaines d'ailleurs relevaient objectivement de l'ignoble. Mais, d'une manière générale et sans doute assez contradictoire, dans ma part de France, Pierre Messmer se livre, mais en même temps, c'est peut-être par pudeur, mais c'est de tous ses ouvrages celui qu'il appréciait peut-être le moins. En effet, l'écrivain Pierre Messmer, avec l'humilité qui lui était coutumière, considérait à tort ou à raison, ou du moins me l'avait dit souvent, qu'il pensait qu'il n'avait pas réussi à répondre de manière vraiment satisfaisante, vraiment assez complète, vraiment de manière assez synthétique, aux questions pourtant, je cite, extrêmement pertinentes qui lui avaient été posées par son ami Philippe de Saint-Robert. Pour conclure, nous voudrions mettre l'accent sur une évidence. La discrétion, la réserve et la pudeur de Pierre Messmer étaient immenses, de même qu'il avait pris l'habitude de fabriquer des cloisons à l'intérieur de sa vie. Je sais que j'ai eu la chance de travailler avec lui et d'être très proche de lui de 1986 à 2007. J'avais la chance d'être de ceux qui étaient autorisés à venir à Saint-Gildas, madame, vous le savez. Il essayait de ne pas mélanger les genres et il a toujours fait en sorte que ses collaborateurs ici ne soient pas les mêmes que là, même si par ailleurs nous avions parfois besoin de nous rencontrer. La discrétion et la réserve donc de Pierre Messmer étaient immenses. Elles sont présentes d'ailleurs dans tous ses écrits. Mais cette pudeur, cette réserve, cette gentillesse ne l'ont pas pour autant empêché d'être un écrivain courageux et engagé. Elles ont simplement encore ajouté à la respectabilité de ce très grand Français.
Vous venez d'entendre successivement Arnaud d'Autrive et Jacques Barat dans l'éloge de Pierre Messmer qu'ils ont prononcé lors de la journée en hommage à Pierre Messmer organisée par l'Académie des sciences d'outre-mer. Vous trouverez également une autre émission proposée par Canal Académie dans laquelle le général Gilbert Forêt a relaté la carrière militaire de Pierre Messmer en soulignant l'exceptionnel soldat courageux et engagé qu'il fut tant durant la Seconde Guerre mondiale qu'en Indochine.